Podcast, la première.
Bonjour, Jacques-Olivier au micro pour un autre mémo gallo-romain. Les éditions Racine, nous en parlions en direct depuis la foire du livre de Bruxelles la semaine dernière, viennent de publier un ouvrage qui est destiné à faire référence pendant quelques années au moins pour ce qui concerne les découvertes archéologiques relatives à la période romaine sur le sol de la Wallonie. Une période qui dure environ 5 siècles et qui va bien sûr de la guerre des Gaules entamée par Jules César en 58 avant Jésus-Christ et qui se termine avec la chute de l'Empire romain à la fin du 5e siècle et la prise de pouvoir par les Francs. Ce travail a été dirigé par Raymond Brulé, archéologue à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Dans l'émission précédente, il nous a brossé un tableau général de l'héritage romain dans nos régions et ce que peut en dire l'archéologie. Nous allons à présent entrer davantage dans le détail de ces recherches et de leurs résultats en remontant bien sûr à Jules César et à ses successeurs directs.
Quand Jules César arrive en Gaule, qu'est-ce qu'il trouve? Je dirais dans la Gaule septentrionale, la Gaule belgique.
En fait, la Gaule est divisée en deux, en gros, enfin, on ne va pas donner les détails. Il y a le sud et le centre, et puis il y a le nord. Et le nord est un peu une terre inconnue, comme l'on dit en latin, terra incognita. C'est-à-dire que par le sud et par le centre, il y a déjà eu des relations importantes et suivies avec Rome, et puis avec César lui-même, dans la mesure où les premiers commerçants, les personnes qui veulent un petit peu aussi travailler pour l'économie de l'Empire, ont déjà des points de chute. Dans le sud de la Gaule, enfin déjà la Narbonnaise est conquise, donc finalement c'est les Arvernes, les Édouins, les grandes populations du centre de la Gaule qui de longue date accueillent des commerces, accueillent des négociants. C'est pas le cas du nord de la Gaule. Quand César arrive, d'ailleurs il le sait parce qu'il en a entendu parler, les populations du nord de la Gaule sont à la fois assez rétives, assez méfiantes vis-à-vis évidemment de populations venues d'Italie qu'elles ne connaissent pas. Mais d'autre part, il faut aussi souligner que ces populations n'ont pas eu l'habitude de faire du commerce avec Rome avant la conquête. Donc il n'y a pas de relation. Alors on doit un peu nuancer. Les Rèmes, par exemple, autour de Reims, peut-être un peu les Trévires, ont dû avoir effectivement des marchands chez eux. Mais dans le nord, et surtout dans le nord-ouest, les populations que nous connaissons bien, qui sont les Nerviens, qui sont les Aduatiques, ce sont des populations qui ne connaissent pas Rome et qui n'accepte d'ailleurs pas l'étranger.
Qu'est-ce qui amène César, au fond? Paradoxalement, on pourrait dire que c'est Rome qui l'amène ici.
Oui, comme toujours, il y a évidemment d'une part l'ambition de l'homme, mais je pense qu'on ne peut pas lui jeter la pierre. Il n'y a pas que ce général-là à Rome qui a voulu avoir sa propre gloire et avoir ses propres conquêtes, bien que c'est évidemment un personnage historique aujourd'hui. Mais il y a le système romain, le système impérialiste romain, qui est bien rodé. On n'attend pas César pour mettre sur pied des conquêtes. Avant lui, il y en a eu d'autres, Pompée par exemple, et puis sous la République. Donc tout un chacun, comme généraux, avait l'habitude effectivement d'avoir une carrière militaire. Et donc César fait partie de ce lot de la période en principe de la grande colonisation. Et c'est un peu l'occasion qui fait le larron. Il est dans le sud de la France, enfin il est dans le sud de la Gaule, il est aussi en commande de ces territoires. Et il se rend compte que finalement, une des manières de s'imposer à Rome, c'est de proposer une avancée. Et comme en histoire, et comme un phénomène de l'histoire, il faut toujours un prétexte. Le prétexte, il le trouvera assez facilement. Et il nous vient des Helvètes, donc des Suisses actuels, où un certain arioviste, qui est donc d'origine germaine, menace en fait la Gaule, menace une partie de la Gaule, et menace surtout la Gaule centrale. Et on a dans les commentaires de Jules César, on a un texte qu'il va reprendre en latin, bien entendu, à partir du gaulois, d'un dirigeant des Édouins qui supplie, en fait, évidemment c'est de l'histoire un peu trafiquée, c'est César qui l'écrit lui-même, mais néanmoins le prétexte est écrit. Il va falloir vous demander d'intervenir parce que nous sommes vraiment sous les coups de boutoir d'Ariovistes et de son peuple helvète qui ont envie de franchir une partie de la Bourgogne, une partie de la France centrale pour aller se trouver une expansion germanique vers l'ouest. Et ceci est plus qu'un prétexte, ça devient vraiment un motif d'intervention. Alors César ne fait ni une ni deux, il prend ce prétexte à la lettre, et il vient à la fois donner un coup de main aux Édouins, qui sont tout de même des alliés de Rome, même si ce sont des tribus gauloises depuis fort longtemps, et en même temps, il va pouvoir s'opposer, au fond, à la première menace germanique qui marque le nord de la Gaule.
On parlait tout à l'heure de résistance, hein, de ces peuples du nord. Il va mettre des années, au fond, à vaincre cette résistance à César. Parce que, autant, d'une certaine manière, comme on l'a vu la fois précédente, une fois que les Romains seront là, on a le sentiment que les choses se passeront avec une relative facilité, sans véritable tension considérable, apparemment, hein, pour peu qu'on sache. Mais pendant la guerre des Gaules, c'est tout le contraire. Enfin, je veux dire que certains vont même jusqu'à parler de génocide en ce qui concerne les Éburons, par exemple.
Oui, si on devait prendre un peu de recul, comme on le fait quand on est historien, on aurait peut-être tendance à diviser la guerre des Gaules en trois périodes, hein, entre 53 et 50, donc 52 avant Jésus-Christ, et puis le début, qui est donc en 58. Sur ces quelques années-là, on voit trois périodes assez distinctes. La première période, que l'on a appelée la reconnaissance. Au fond, César se promène en Gaule, il n'a pas trop de difficultés, il est en terrain à peu près connu, le centre de la Gaule, chez des amis, plus ou moins, enfin des alliés ou des futurs alliés. Il va monter vers le nord, il va reconnaître la Belgique, il va aller même jusque en Angleterre, mais c'est une simple expédition. Et puis ces années-là ne sont pas trop catastrophiques. Mais quand il va véritablement, et c'est la deuxième partie en fait de sa guerre des Gaules à lui, quand il va véritablement s'intéresser au nord, donc à nos régions, là il va rencontrer des difficultés et il va avoir des révoltes et la conquête ne sera pas facile. En réalité, jusque-là, jusqu'au moment de franchir, non pas le Rubicon, comme on dit pour l'Italie, mais ici de franchir la Sambre, par exemple, ou la bataille du Savis. Jusque-là, il était encore dans des opérations relativement faciles et relativement modestes. Mais quand il arrive chez les Belges, dans cette deuxième partie, au fond, on appellera ça la guerre de Belgique, finalement, il va rencontrer énormément de difficultés. Et la troisième partie de la guerre des Gaules, c'est très curieusement, par contre-coup, c'est un soulèvement du centre de la Gaule. Un soulèvement qui vient bien tard, puisque jusque-là, tout se passait bien. Et alors chez nous, c'est Ambiorix, dans le nord, avec qui il y aura évidemment maille à partir, tandis que vous savez bien que c'est Vercingétorix, pour ne pas le citer, qui va lui prendre en main la troisième partie de la guerre des Gaules et donc la révolte généralisée.
Oui, grande coalition, mais où, paradoxalement, il n'y a pratiquement plus de, entre guillemets, Belges, parce qu'ils ont déjà été très malmenés précédemment.
Voilà, la guerre de Belgique était terminée, ou à peu près. Il y a juste Ambiorix qui avait pu échapper, on n'a jamais retrouvé Ambiorix. Saint-César a pourtant lutté contre lui très longtemps, puisque c'est tout de même lui qui a mis le feu aux poudres. Il y a la bataille de la Sambre, enfin on pense que c'est sur la Sambre, et donc il y avait Boduonia et ses Nerviens. Mais en réalité, celui qui est le plus dangereux, après la première période de conquête-reconnaissance, c'est la révolte d'Ambiorix. Au fond, la révolte d'Ambiorix a précédé la révolte du centre de la Gaule. Mais elle a été matée, sauf Ambiorix qui a toujours échappé en tant qu'individu, en tant que personne. Mais ça a tout de même donné l'occasion à Jules César de voir intervenir auprès de ces populations qui s'étaient révoltées. Et donc, ce sont, après les Nerviens, ce sont surtout les Aduatiques et les Éburons, bien entendu. Les Aduatiques, les Éburons qui sont très proches et qui occupent grosso modo un peu la vallée de la Meuse et le nord de la vallée de la Meuse. Ce sont ces deux populations-là qui ont évidemment souffert à la fin de la guerre de Belgique. Et comme il y a eu une révolte qui a été initiée par eux, c'est vrai qu'au moins en ce qui concerne les Éburons, ils vont disparaître de l'histoire. En tout cas, on va les rebaptiser autrement. On ne peut pas imaginer que tous les éburons soient passés par le fil de l'épée, comme ce fut le cas pour l'oppidum des Adriatiques, la population de l'oppidum des Adriatiques, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire tous les Adriatiques, mais l'oppidum des Adriatiques. Après également une phase de traîtrise de leur part, César a fait passer la plupart des personnes par le fil de l'épée. Alors, bon, génocide, toute proportion gardée, je veux dire que pour une population dont nous ne connaissons pas exactement le nombre, qui n'occupait pas une seule place centrale, il n'est pas évidemment certain que l'on puisse parler de génocide. Mais nous l'interprétons, nous, comme historiens, un peu de cette façon. Pourquoi ? Parce que les Adriatiques disparaissent du nom de l'histoire et les Éburons sont remplacés également par un autre nom. Et ce nom qui oublie définitivement les Éburons asiatiques, ce seront les Tongres. Au fond, on va donner un nom de la future capitale à un peuple. C'est bien la preuve qu'il a fallu rebaptiser et probablement recomposer un ensemble de nouvelles populations autour d'un nouveau territoire.
On disait tout à l'heure que donc, ces peuples du Nord étaient relativement rétifs à la présence, pour le moins en tout cas rétifs à la présence romaine. Pourtant, on dit aussi que César et Ambiorix étaient des gens qui se connaissaient par ailleurs, et qu'Ambiorix aurait eu quelques services de la part de César. Donc ce qui veut dire quand même qu'il ne faut pas non plus les imaginer comme totalement repliés dans des sombres forêts profondes, un peu comme on peut l'imaginer pour quelques tribus d'Amazonie aujourd'hui.
Oui, les populations n'étaient pas les mêmes, et on le voit bien quand on fait la différence entre des peuples comme ceux des Morins qui se trouvent au bord de la mer, comme les Ménapiens aussi qui étaient quand même très reculés. On parle d'eux avec les Morins comme les populations les plus éloignées de l'Empire. Donc ils étaient quand même assez, en termes géographiques en tout cas, assez marginalisés. À côté d'eux, les Nerviens, c'est pas mieux. Les Nerviens n'acceptent pas la pénétration des idées, du vin, des contacts avec l'Italie, avec la Rome classique. Donc ce sont des populations qui sont assez rétives. Et cela, je dirais, même pendant la guerre des Gaules, mais aussi avant. Et vous avez alors plutôt l'Est qui est plus favorable, enfin les Rèmes, on va dire aussi les Trévires. Ce sont des populations qui vont immédiatement comprendre l'intérêt qu'ils peuvent avoir à frayer avec Rome, à rencontrer des marchands, puisque l'aristocratie locale va pouvoir, avec ses échanges, va pouvoir en réalité développer son économie. Donc il y a des mentalités très très différentes. Et vous me disiez, Ambiorix a dû connaître Rome. Oui, on peut déjà le constater lorsque l'on voit la manière dont il a fait le siège de plusieurs légions romaines. Il a utilisé des méthodes de siège qui sont des méthodes romaines. Ce qui est même assez curieux, parce que quand on voit la bataille de la Sambre qui a été réalisée par les Nerviens contre Jules César, c'est un peu une bataille de désordre où on n'aurait pas donné gagnant jamais les Gaulois ni les Belges, tellement cette bataille était menée de manière anarchique. C'est seulement le nombre, leur courage. Les Belges sont les plus braves. C'est là que, évidemment, on parle surtout des Belges pour la bataille de la Sambre. Mais c'est le courage, c'est pas l'intelligence, là, c'est pas l'organisation. Par contre, Ambiorix, un peu plus tard, quand il organise une révolte, il va assiéger Tongres et puis encore le camp de Quintus Cicéron. Et le siège se fait en règle, comme s'il était organisé par Rome. Donc on peut imaginer qu'il y avait des contacts, évidemment. Et puis quand Ambiorix disparaît dans ses forêts, quand il se cache, c'est la fuite, il est seul, définitivement il est battu, et il n'a plus comme possibilité que de faire des escarmouches, que de se réfugier surtout dans des marais, de se réfugier dans des fermes. Il n'a plus d'armée non plus, il n'a plus de peuple qui est prêt à se révolter après la bataille des Adriatiques, après le fait qu'il ait dû finalement abandonner le siège du camp de Quintus Cicéron. Il a perdu toute son aura aussi, et il devient un personnage de légende. On pense souvent aux quatre fils Aymon dans nos Ardennes parce que, en fait, on raconte que, puisqu'on ne pouvait pas arriver à appréhender Ambiorix, il se sauvait au dernier moment. Il était dans une ferme cachée.
Et il était déjà en train de filer, quoi.
Voilà, avec deux, trois guerriers, donc comme si c'était notre fameux chevalier qui quittait les forêts d'Ardennes sur un ou deux chevaux, avec quatre compagnons. Et peut-être que la légende vient en partie de là.
Ceci dit, venons-en maintenant à l'aspect archéologique de tout ça. Je suppose qu'il doit y avoir un peu de frustration aussi pour l'archéologue, parce que on discute toujours sur la manière de resituer cette campagne de César. Pourtant, on lui donne des détails sur les endroits, les distances, même quelquefois, restitue les sites. Et pourtant, ceci dit, on se dispute toujours pour Alésia aussi, enfin quelques-uns en tout cas. Mais du côté belge, il y a eu quelques grandes batailles. Il y a eu ce fameux oppidum des Adriatiques, par exemple. Où est-il exactement la bataille dite de la Sambre, est-ce vraiment sur la Sambre? Enfin, je veux dire qu'on peine à retracer ce parcours de César.
Pour le plan archéologique, on ne peut pas évidemment avoir beaucoup d'informations puisque c'est une période de transition. Nous sommes encore en pleine époque gauloise. Aussi longtemps que nous ne sommes pas au règne d'Auguste, on ne peut pas vraiment parler d'une avancée de la romanisation. C'est trop tôt. Nous sommes en pleine conquête ou en phase de post-conquête. Donc, pendant 50 ans, il ne se passe pas grand-chose. Il y a un peu de pacification à faire après César. Et cette période de 50 ans qui va en gros donc du milieu du 1er siècle avant notre ère jusqu'au milieu du règne d'Auguste, qui lui va se réintéresser à la Gaule à un moment, il y a un trou noir. Et même, je dirais que sur le plan d'histoire, nous n'avons pas grand-chose. Nous avons les commentaires de Jules César pour sa guerre à lui, et puis après, il n'y a plus grand-chose pendant une trentaine d'années. Alors vous imaginez bien qu'en archéologie, c'est la même chose. Les sources archéologiques sur lesquelles on compte beaucoup pour compléter des moments où nous n'avons pas d'informations, elles sont assez défaillantes pour cette époque-là aussi. Et donc, je le disais, la première raison, c'est parce que nous sommes dans une période de transition qui est encore très gauloise. Et donc, tout le matériel archéologique qui est découvert dans nos sites est un matériel gaulois. Alors, vous savez, pour dater un matériel archéologique gaulois qui soit un peu avant la guerre des Gaules ou un peu après la guerre des Gaules, c'est extrêmement difficile. Le matériel archéologique romain et les sites occupés par Rome à cette époque passe à peu près inaperçu, et donc on en est presque réduit à travailler sur ce que vous me proposiez, une histoire de l'événement, donc à chercher les endroits de bataille, parce que c'est toujours intéressant de faire parler son imagination et de voir que peut-être nous pouvons être sur la piste d'un grand oppidum gaulois qui a été le siège par César de l'oppidum des Adriatiques, ou bien qui était quelque part dans une vallée de rivière, l'endroit où on a mené cette grande bataille de la Sambre. Mais il n'y a rien de plus difficile que d'identifier des sites comme cela. D'abord, un site de bataille pratiquement passe inaperçu aux yeux de l'histoire. Bien sûr, Waterloo, on sait bien qu'on va retrouver encore aujourd'hui des traces de cette bataille, ne fût-ce que parce qu'on a utilisé des boulets en métal. Mais là, pour les périodes de l'Antiquité, c'est extrêmement difficile. Je peux faire une comparaison qui est utile. On va peut-être franchir 50 ans. C'est pas très loin aux yeux de l'Antiquité. C'est la fameuse bataille de Varus en Germanie. Donc, sous le règne d'Auguste Tibère, il s'est passé des événements importants. Auguste, un peu fidèle finalement à la mémoire de Jules César, a voulu faire autant que lui, si pas mieux. Il a voulu se lancer dans un projet de conquête de la Germanie. Tant qu'à faire, pourquoi pas aller plus loin que la Gaule et que la Belgique et aller encore plus au nord et conquérir la Germanie. Mais cette opération a été un échec, notamment avec la bataille de Varus. Et Varus a perdu l'équivalent de 4 légions dans cette aventure, dans les forêts profondes d'Allemagne. Et la bataille, en réalité, les archéologues allemands n'ont jamais pu retrouver exactement l'endroit, mais on sait par les textes que à la fin de la bataille, les troupes sont parties en débandade parce que c'était dans des zones assez marécageuses et que les soldats se sont complètement dispersés. Je dis par tout petits groupes et sur des kilomètres carrés. Et un jour, avec des détecteurs de métaux, on a retrouvé une première poche, dans un endroit d'objets, avec des monnaies de l'époque augustéenne, avec du matériel militaire, et ça s'est reproduit sur des kilomètres carrés. Donc on avait là, non pas le lieu de la bataille, mais le lieu, et grâce en fait à des découvertes archéologiques, le lieu où, en réalité, les troupes se sont sauvées sur un grand espace et dont beaucoup ont péri. Ils ne sont jamais revenus à Rome ou en Gaule. Tandis que la bataille de la Sambre a été concentrée à un seul endroit. On a entassé les morts après la bataille, on a dû les reprendre, les mettre quelque part. On a dû sans doute récupérer les objets et surtout les armements. Et puis, comme César ici était gagnant, il n'a pas laissé de traces, il a reconstitué les bagages de ses légions et il a continué en direction de l'oppidum des Adriatiques. Donc, que l'on ne retrouve à peu près aucune trace d'une bataille comme celle-là, ça paraît tout à fait normal. Et c'est ce qui fait la difficulté, précisément, de l'archéologie pour ces périodes-là.
Oui, ceci dit, une légion, c'est pas rien. Une légion qui passe l'hiver, ça laisse des traces aussi. Pourtant, on n'est pas tellement plus informé non plus, là. Tous ces camps romains attaqués les uns après les autres par Ambiorix, là aussi, ça reste un point d'interrogation.
On a trouvé matériellement des indices autour de Tongres, puisque Tongres, tout de même, sera la ville que l'on appellera Atuatuca par la suite, et ce sera la ville des Tongres. Le nom est assez proche d'ailleurs, et on peut penser que le camp qui était assiégé par Ambiorix devait se trouver en réalité à Tongres. Là, je pense, on n'a pas la preuve matérielle, bien qu'on ait un peu d'archéologie quand même pour en parler dans le site, mais on peut imaginer assez facilement que, effectivement, ce site ait été celui qui a été assiégé par les troupes d'Ambiorix. Le camp de Quintus Cicéron est un camp que l'on n'a jamais retrouvé, qu'on n'a pas pu situer. Mais il faut bien voir peut-être que ce type de fortification a pu être repris par la suite à des époques ultérieures, en particulier aussi déjà à l'époque romaine, mais peut-être un peu plus tard. Et donc la superposition des vestiges fait que parfois on cherche en rase campagne quelque chose et que finalement peut-être que ce site se trouve aujourd'hui caché sous des vestiges plus récents ou des vestiges médiévaux. Et alors, il y a aussi des casernements que nous connaissons en termes de texte. Par exemple, César, l'endroit où il a hiverné le plus souvent, c'était à Amiens, dans le nord de la France. Donc ça veut dire, en fait, à l'emplacement de la ville romaine. Donc on ne retrouvera évidemment jamais le camp où César a passé les hivers, puisque c'était déjà dans un site existant, probablement d'origine gauloise, et puis transformé après à l'époque romaine. Donc ce sont des vestiges archéologiques que l'on ne peut pas retrouver parce qu'ils ont été oblitérés par les constructions ultérieures.
Je vous rappelle que mon invité est Raymond Brûlé, archéologue, qui a dirigé l'ouvrage consacré à l'héritage matériel de la période romaine en Wallonie, ouvrage paru aux éditions Racine. On en arrive à Auguste alors, hein, vous l'avez dit, c'est lui qui va au fond relancer, je dirais après César, l'intérêt pour la Gaule, avec quand même aussi en tête toujours l'idée, parce que ça c'est une des données fondamentales de ce territoire, c'est que c'est un territoire de frontière, hein, il y a toujours quelque chose derrière, et c'est cette fameuse Germanie que Auguste, un peu à la manière de César toujours, hein, a toujours en tête de peut-être essayer d'accrocher à son palmarès, hein, si je puis dire. Donc, au fond, cette Gaule du Nord, il faut à la fois la protéger des autres, et c'est en même temps un tremplin pour aller occuper les autres. Je crois qu'on peut pratiquement présenter les choses comme ça.
Oui, la Germanie est un souci, mais ça deviendra un souci à la fois grave et permanent, on pourrait dire un peu plus tard. Donc à partir du 3e siècle ou à la fin du 2e siècle, déjà Marc Aurèle a eu des problèmes, et pas seulement avec les Germains, mais la situation était plus ou moins stabilisé pendant le 1er siècle et le 2e siècle de notre ère, après la conquête de Jules César. Alors, la première tâche que notre premier empereur, Auguste, aura, c'est évidemment d'organiser les nouveaux territoires conquis. Et alors, il y a ceux que Jules César a conquis, la Belgique, la Gaule, qui ne sont pas encore organisés en structure. Et puis, il y a les autres conquêtes qui ont été faites aussi, à la fois pendant la République et par Auguste lui-même. Alors, il est assez normal qu'il ait une certaine ambition, Auguste, puisqu'il a vu dans son entourage, évidemment, comment ça se passait, et depuis longtemps, depuis plusieurs générations. Et donc, ayant en fait l'Empire à ses pieds, puisqu'il a terminé finalement par être seul à la tête d'un Empire, ce qui n'était jamais le cas avant lui. C'est la fin de la République d'ailleurs. Donc il est seul maître à bord et ça n'empêche pas d'avoir des ambitions, non seulement d'être le responsable intégral de toutes les richesses romaines et de tous les territoires, mais peut-être aussi d'accrocher à son palmarès une action d'éclat. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'il a pensé à la Germanie. Mais là, il a vu trop grand parce que la Germanie, c'est un territoire beaucoup plus vaste, beaucoup plus difficile d'accès, dans lequel il n'y avait aucune préparation. Il n'y avait aucune relation d'amitié comme c'était le cas avec le centre de la Gaule, par exemple, à l'époque de Jules César. Il n'y a aucune possibilité, finalement, de faire autrement que de faire une conquête brutale. Alors, il l'a essayé, mais il n'y a pas réussi. Je pense qu'il a surtout, dans un premier temps, essayé de voir ce qu'il allait faire de ses légions. Et ces légions ont été casernées sur le Rhin, considérées comme la frontière d'Empire, à partir de Jules César, et puis évidemment aussi sous son règne. Et que comme ces légions basées sur le Rhin n'avaient pas beaucoup d'activité, puisqu'il n'y avait pas réellement de menace, on pouvait surveiller la frontière, mais il a mis à profit cette idée qu'il avait des troupes, il a mis à profit son ambition personnelle pour se lancer dans la conquête de la Germanie. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques années. Et au fond, Tibère, son successeur, qui était général sous son règne, c'est surtout lui qui a eu les gros ennuis. Et puis on a dû admettre que c'était une conquête à ne pas faire. Au fond, un pont trop loin pour la Germanie, ne pas aller au-delà et avoir de nouveaux risques. Et cette perte des quatre légions, d'un coup, a quand même été déterminante. Et alors, les troupes sont devenues des troupes de couverture. Elles sont revenues à leur point initial sur le Rhin et elles vont occuper des casernements pendant toute la période romaine en considérant, on peut dire une fois pour toutes, que le Rhin devenait définitivement la frontière de l'Empire du côté nord.
Auguste est venu plusieurs fois en Gaule, hein, on en a les attestations.
Oui, il a dû se déplacer, je dirais surtout deux fois, sans doute plus, mais surtout deux fois, pour lancer l'organisation de ces territoires. Parce que les choses ne sont pas simples, il y a le problème de l'administration à mettre en place, il y a le problème aussi de voir comment on fait avec l'armée, il y a le problème d'organiser la religion, enfin il y a tout le problème de la structuration des peuples conquis et de ces territoires. Alors il est venu plusieurs fois, il est venu aussi surtout à Lyon pour essayer de développer un point central, un point d'accrochage pour administratif pour la Gaule. Il s'est intéressé alors, parce qu'il avait des brillants généraux, ce qui fait un brillant règne, c'est aussi d'avoir de brillants généraux. Pensons à des gens comme Agrippa, et puis il n'y a pas que lui, et on cite souvent un certain Mécène pour la culture. Il avait des gens absolument brillants autour de lui, comme ce fut le cas par exemple pour certains rois de France, qui savaient aussi s'entourer d'adjoints qui étaient brillants dans leur domaine. Mais ce fut le cas pour Auguste, et ça n'a pas toujours été le cas, vous imaginez, avec tous les empereurs. Puis il faut dire que son règne a été assez long. Donc il a chargé l'un de ses généraux, qui était à la fois militaire, mais qui était surtout un concepteur de l'organisation et de la hiérarchie et de l'administration, de construire le premier réseau routier. Agrippa, c'est lui qui lance les premières initiatives routières. Rome a un modèle. Lorsqu'il va conquérir un territoire, il sait que derrière cette opération, derrière cette initiative, il y a toute une série de choses qui doivent suivre et se mettre en place. C'est ce qu'on appelle la logistique, mais Rome est passé maître dans ce domaine. La logistique, ça veut dire, dans un territoire qui n'est pas conquis, d'abord assurer des moyens de communication. Et bien, par exemple, notamment, Agrippa s'est lancé dans cette aventure. Il a été le premier à doter l'ensemble de la Gaule d'un réseau routier. Parfois sur la base de routes existantes, parce qu'on ne peut pas croire qu'il n'y en avait pas avant lui, mais aussi parce qu'il fallait des routes plus rapides qui permettaient un déplacement d'un endroit à l'autre de la Gaule.
Avec deux objectifs, la mer d'un côté, le Rhin de l'autre, dont vous parliez.
Ça, c'est le premier réseau routier. À partir de Lyon, on s'est rendu compte qu'il fallait un axe qui montait vers le nord, et plutôt on va dire le nord-est, c'est-à-dire le Rhin, et Trèves éventuellement, et puis l'autre en direction de Boulogne, qui sera toujours un port considérable dans la Manche. Il faut rajouter une troisième route, alors qui est plutôt est-ouest, qui sera la route en direction de la Saintonge. On va aussi relier, bien entendu, l'Aquitaine. C'est bien normal que la partie ouest, sud-ouest de la Gaule soit aussi relié par ce réseau. Alors probablement que dans un premier temps, Agrippa n'a pas créé énormément de routes, il a dû reprendre des tracés en partie existants, mais le génie technique romain a fait le reste, c'est-à-dire qu'on a fait des ponts, on a fait des routes plus solides, on les a élargies et on les a redressées surtout, parce que je pense que les routes gauloises n'étaient pas droites comme c'était le cas à l'époque romaine. Et on a permis une première action tout à fait indispensable en terrain conquis, c'est de pouvoir organiser un système de courrier, un système aussi de relais qui valent tant pour l'armée que pour l'administration.
À propos des routes, on a des documents quand même intéressants. On ne peut pas tout tirer de ces documents, mais vous parlez dans l'ouvrage de ce qu'on appelle la table de Peutinger, Peutinger, je ne sais pas comment on dit. Comment dites-vous ?
Oh, on peut dire les deux, parce que c'est vrai que celui qui a découvert, c'est un Allemand, donc on peut le prononcer à l'allemande si vous voulez. En français, on le traduit souvent en Peutinger, mais c'est à propos d'un antiquaire d'Augsbourg qui a tout à coup découvert dans des vieux livres ce document. Qui sort non pas de la préhistoire, mais qui sort de l'époque romaine. Alors, c'est une copie médiévale, on est bien d'accord, mais elle reprend quand même assez fidèlement une carte de l'Empire romain. Alors, c'est étonnant de voir ce document, parce que c'est une carte qui est très très longue et qui est très très plate. La Méditerranée, c'est
6,80 m sur 34 cm. Oui, j'ai noté les chiffres.
Oui, je ne les avais plus en tête, mais c'est extraordinaire de voir comment on a aplati le monde romain pour bien montrer que néanmoins, au centre, il y a la Méditerranée, toute petite, mais qui est quand même le centre de l'Empire. Ils avaient bien conscience.
Tous les chemins mènent à Rome, encore.
Voilà, ils avaient bien conscience que la Méditerranée était quand même l'élément fondateur dans cet empire, enfin dans ce monde de l'Antiquité. Et puis alors, on va donc dresser sur cette carte rapide, parce qu'il y a quelques grands fleuves, il y a quelques grandes montagnes, et puis c'est à peu près tout. On va dresser des lignes, ce qui correspondent au réseau routier implanté par Rome, non seulement par Agrippa, mais bien entendu par les successeurs d'Auguste, puisque ce document est quand même tardif. Et c'est la reproduction sur un parchemin à l'époque médiévale. Évidemment, c'était au départ dessiné sur un autre document, mais c'est une reproduction destinée à voyager qui existait en premier lieu peinte sur un mur à Rome, sur le portique de paix, là où on voyait dessiner l'Empire, comme probablement dans beaucoup d'autres villes, bien sûr, de l'Empire romain. Et la philosophie de ce document, c'est de nous donner les relations, qui sont donc des relations routières, entre des agglomérations, et en donnant en plus le chiffre correspondant à la distance.
Il y a un autre document qu'on appelle, lui, l'itinéraire d'Antonin, et qui date aussi des débuts du IIIe siècle, hein, qui a été recopié aussi, et qui donne aussi des informations sur ce réseau routier de l'époque romaine.
Ce n'est plus aussi clair que le premier document, parce qu'il n'y a pas de carte, c'est une liste, c'est un simple listing dans lequel on trouve l'énumération à la fois des endroits qui sont traversés par une route, un itinéraire bien entendu, et surtout également la distance en milles, pour ne pas dire kilométrique, entre chacune des stations en question. Donc c'est un document qui est un peu complémentaire par rapport au premier, mais qui n'est pas très différent.
C'est malgré tout assez difficile, dites-vous, à interpréter ce document. Pas si simple que ça de s'y retrouver. On pourrait se dire, après tout, si on a la carte sous les yeux, ça devrait aller. Eh bien, c'est pas si simple. D'abord, il y a les unités de compte, si je puis dire. Il y a les 1000 romains ou gaulois. Enfin, c'est pas exactement la même chose.
Oui, en termes de distance, on voit bien que dans le Nord, pour ces documents-là en tout cas, on a privilégié une mesure de distance qui est celle de la lieue gauloise. Tandis que pour le centre et le sud de la Gaule, c'est le mille romain. Et donc, ce sont des distances complètement différentes. Pourtant, les chiffres sont donnés. Et donc, il faut savoir à partir de quel moment on doit calculer en lieue gauloise ou en mille romain. Et pendant ce temps-là, pendant que sur ces documents on a des distances données en lieue gauloise, si vous avez la chance de retrouver sur le terrain en archéologie ce qu'on appelle des millières, c'est-à-dire des bornes kilométriques, enfin des bornes correspondant à une distance, ces bornes nous donnent en principe, même dans nos régions, une distance en mille romains. Donc il y a une distorsion entre, enfin pour le peu que l'on en ait, on n'en a pas.
On n'en a que deux, si j'ai bien vu.
Pour la Belgique, on n'en a que deux, oui, mais en Gaule, il y en a quand même un grand nombre. Mis bout à bout, ça nous fait des informations. Mais grosso modo, on utilise le mille romain dans l'administration, et puis sur ce document, c'est la lieue gauloise pour le Nord. Donc on a quelques difficultés à savoir où on se retrouve. Et puis comme c'est un copiste du Moyen-Âge qui a repris le document, la carte, et qui l'a redessiné. Il s'est trompé de temps en temps dans un chiffre ou dans un morceau de chiffre. Alors, on a parfois des distorsions entre un endroit qu'on croit avoir identifié comme étant une agglomération et la distance entre cette agglomération-là, qui est attestée sur la carte, et l'agglomération suivante. Parfois, il y a des hésitations. Sauf quand, évidemment, le mot latin désignant un site est tellement proche du nom actuel qu'on n'a aucune hésitation.
Mais dans d'autres cas, pourquoi, par exemple ?
Mais si vous avez, par exemple, trajectum ad Meusem, c'est-à-dire le franchissement de la Meuse à Maastricht, vous savez bien que vous êtes dans la ville de Maastricht à l'époque romaine. Parce que c'est évident qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Donc on a des synonymes en quelque sorte entre le mot latin et le mot actuel qui ne font pas beaucoup de problèmes. Si on prend Atuatuca, bon, qui est tout de même un nom gaulois à l'origine, mais qui désigne l'Atuatuca des Tongres, ben, c'est la ville de Tongres. On n'a pas de difficulté non plus parce que là il y a continuité. En revanche, il y a des agglomérations qui portent un nom et dont il n'y a aucune possibilité d'imaginer une homonymie ou d'imaginer qu'on puisse le traduire dans un terme qui serait aujourd'hui le nom de la commune. Évidemment, ça ne correspond pas. Et donc, il y a de temps en temps quelques petites hésitations de ce point de vue.
Alors, sur le plan de ces routes, vous l'avez dit, bon, il y a quelques grands itinéraires qui traversent la Wallonie, puisque c'est de ça que nous parlons. Mais il n'y a pas énormément de... Le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas de grosses villes, au fond, en Wallonie. On ne connaît pas ça chez nous. De même qu'on ne connaissait pas, d'ailleurs, d'oppidum important, déjà chez les Gaulois. C'est assez étrange, hein.
Oui, c'est un peu évidemment le résultat de l'histoire et de la géographie historique. La Wallonie est même une petite région en Europe, au point de vue superficie. Et il faut bien savoir que à l'époque de l'Antiquité, à l'époque romaine, la ville par excellence, donc celle qui est l'élément le plus important, c'est toujours en fait la capitale d'une entité administrative qui est en réalité une reprise de l'entité administrative, si on peut utiliser le mot administratif, plutôt de la population autochtone, indigène, avant la conquête. Donc les Nerviens avaient une capitale, les Tongres avaient une capitale, les Morins avaient une capitale, et ces capitales-là, qui ont pu bouger un peu dans l'espace, notamment lorsqu'il y a passage d'un lieu de hauteur qui est un oppidum vers la plaine, lorsqu'il y a refondation, si vous voulez, ça a pu un peu bouger de quelques kilomètres, mais grosso modo, Rome aura comme ambition de donner très rapidement une capitale à un territoire qui correspond peu ou prou à ce qu'était le territoire ancien indigène d'une population. Alors il se fait que...
Pas de chance,
puisque Bavay, qui est la capitale des Nerviens, à quelques kilomètres près, ça aurait pu être en Belgique, mais ce n'est pas le cas. Tongres, c'est tout de même un endroit qui n'est pas très central pour la future entité de la population des Tongres, qui s'appelait avant autrement, qui étaient les Aluatiques, qui étaient les Éburons, etc. C'est un peu une association,
une
nouvelle création administrative d'un très très grand territoire. Et Tongres est un peu décentré, parce qu'il est un peu vers le nord. Donc, si on peut imaginer que l'oppidum des Aluatiques ait été l'ancienne capitale des Aluatiques, ait été quelque part dans la vallée de la Meuse, on pense, mais on n'a évidemment pas la preuve, puisqu'on sait par les commentaires de César que c'était un site qui était bien doté par la nature, bien défendu, donc un peu comme on dirait une citadelle de nos jours dans la vallée Mosane. Bon, là, on aurait pu refonder une ville, mais on ne l'a pas fait, puisque le peuple des Aluatiques a disparu de l'histoire. Donc, on est confronté toujours à des capitales qui se trouvent aux frontières de la Wallonie, si vous voulez.
Gardons toujours notre point de vue. Sur le plan archéologique, je suppose qu'à part ces fameuses routes qu'on connaît quand même bien, parce qu'il y en a quand même des kilomètres, il n'y a pas énormément de choses non plus, hein, je dirais, sur ce début du 1er siècle ou cette première moitié du 1er siècle de notre ère.
Non, je pense le contraire. Je pense qu'à partir du moment où on a franchi cette période de transition qui reste fort inconnue et par les historiens et par les archéologues, et que nous sommes engagés dans le règne d'Auguste, assez loin dans le règne d'Auguste, et puis de ses successeurs, les choses changent sur le plan véritablement archéologique. Alors, pas véritablement sur le plan historique, mais en archéologie, on retrouve un matériel archéologique qu'on commence bien à connaître, et on commence aussi à bien pister les étapes, les phases du développement de l'emprise de Rome dans nos territoires. Je vais prendre deux exemples pour ne pas être trop long sur ce sujet. Je dirais que c'est à ce moment-là que vont naître les agglomérations routières, qui sont évidemment importantes, puisqu'elles vont compléter ce que Agrippa a fait pour nos régions. On va donner des routes, mais il va falloir aussi développer non seulement des petites stations, des relais, mais il va falloir développer de véritables agglomérations. Eh bien, elles vont naître en quelque sorte au tournant de l'ère. Elles vont naître en 10 avant Jésus-Christ, ou un peu après, donc à la fin du règne d'Auguste. Et ces agglomérations, on en retrouve véritablement les étapes du développement et la première phase de création. Donc ce sont des éléments très importants. Et si on prend la campagne dans laquelle il y a encore des fermes gauloises à l'époque augustéenne, ces fermes vont être appelées à se transformer très lentement en véritable exploitation, ce n'est pas immédiat, mais le mouvement est en marche, pour répondre au modèle économique nouveau qui est celui de Rome. Et ces choses se mettent en place véritablement au début du 1er siècle.
Podcast La Première.
Il nous reste bien des aspects à aborder de cette présence romaine en Wallonie et des traces qu'elle a laissées. Nous y reviendrons donc la semaine prochaine, toujours avec Raymond Brulé, archéologue à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et directeur de l'ouvrage « Les Romains en Wallonie » publié chez Racine. L'émission d'aujourd'hui était réalisée par Christine Bordet et Pierre de Giovanni. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Retrouvez Mémo le samedi de 17h15 à 18h.
La Première.